Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, le podcast qui décortique l'amour avec un grand A. De la première rencontre aux assiettes envoyées à la figure en passant par les retrouvailles, l'emménagement, le premier je t'aime et pourquoi pas un joli bébé. Durant une trentaine de minutes, un couple qui nous ressemble nous dévoile au travers de ses petits secrets, conseils, erreurs ou traits d'audace, ce qui fait que l'on tombe amoureux ou que l'on reste ensemble pour toute la vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julia et Pierre-Hugues. Alors vous connaissez sans doute Pierre-Hugues, l'un des grands joueurs de tennis français, vainqueur en double de 13 titres, dont Roland-Garros en 2018, Wimbledon, l'US Open ou encore la Coupe Davis, un palmarès vraiment impressionnant. Sa compagne Julia, rencontrée grâce au tennis d'ailleurs, s'occupe maintenant de toute la communication de Pierre-Hugues, de son organisation et bien plus encore. Vous pourrez retrouver les liens vers leur profil Instagram sur le site de Gémio, www.gémio.com, donc G-E-2-M-Y-O.com, rubrique podcast. Et la vie de Pierre-Hugues et Julia n'a à peu près rien de normal, et c'est d'ailleurs ce qui rend leur histoire de couple aussi passionnante. Ayant fait le choix d'avoir une carrière professionnelle dans le tennis, Pierre-Hugues a su très tôt qu'il devrait faire au quotidien énormément de sacrifices personnels pour suivre sa passion. Cette particularité fait qu'il a naturellement dû adapter sa vie de couple, pensant même pendant longtemps ne pas pouvoir trouver une personne qui accepterait de le suivre dans ce choix. Dès le début de leur relation, il y a 4 ans maintenant, Julia, une vraie aventurière, comme le dit Pierre-Hugues, s'est jetée à bras-le-corps dans leur couple, dans son aventure à lui. Catapultée dans l'univers du sport de haut niveau, elle prend le risque de suivre Pierre-Hugues dans sa passion. J'ai adoré interviewer Pierre-Hugues et Julia, d'autant plus qu'on l'a fait sur la superbe terrasse de l'hôtel Holiday Inn, Notre-Dame à Paris, qui est un lieu symbolique pour eux, le lieu du premier rendez-vous où Pierre-Hugues a invité Julia. Je suis Pauline Léniaud, et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gémio. Salut Julia,
salut Pierre-Hugues, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, on est hyper heureux de vous avoir sur Chalalove. Et comme je vous disais juste avant de commencer, vous le savez, sur Chalalove on parle d'amour, on parle de relations et des petits trucs aussi que vous avez mis en place et que vous appliquez à votre propre couple, qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas à nous donner des petits conseils si vous en avez, on est très friands de ça. Et du coup, ma première question, elle est toute simple. Donc là, pas de conseils, c'est d'abord, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous pouvez me raconter ça?
Pierre-Hugues faisait le tournoi de ma ville à Metz.
Ouais.
Jouais le tournoi de Moselle Open. Moi, je travaillais sur le tournoi en 2013 et 2014 parce que j'étais étudiante et voilà, faire une semaine, c'était pas de refus. Et donc, je l'ai aperçu en 2013 sans voilà, me dire quoi que ce soit. Et en 2014, quand je suis revenue sur l'édition d'après, je l'ai recroisé en me disant « Ah oui, tiens, lui, je l'avais vu l'année dernière. » Et quelques jours après, il y avait la soirée donc, des joueurs. Et j'étais là-bas avec mes copines qui travaillaient sur le tournoi. Lui, il est arrivé aussi parce qu'il avait perdu ce jour-là. Et un des chauffeurs du tournoi nous a présenté... parce que du coup, Pierre-Hugues papotait avec les chauffeurs, je papotais avec les chauffeurs aussi la journée, et du coup, ils nous ont présenté ce soir-là.
D'accord. Mmh. Et alors, comment ça s'est passé, cette première interaction? Il y a eu un petit coup de foudre direct ou ça a été un petit peu fastidieux
Pas du tout. Alors, pas du tout de coup de foudre.
Non, mais c'est assez, on va dire, un peu cliché. C'est le joueur de tennis et Julia qui était hôtesse au tournoi. Donc,
oui, oui, mais bon, dire ça que... peut arriver, mesdames, voilà. Si jamais vous êtes hôtesse.
Mais c'est certain qu'on s'est rencontrés donc, à une soirée. Donc, j'avais perdu. Hein. Après des victoires, donc un peu triste. Je vais en soirée et je pense que j'ai bien fait de sortir ce soir-là parce que voilà, j'ai rencontré Julia. Ça a tout de suite... On s'est tout de suite bien rigolé. Je pense que c'était le plus important au début, c'est qu'elle me faisait énormément rire. Mm-hmm. Et donc voilà, on est resté en contact, on s'est rencontrés au Moselle Open, on s'est revus un petit peu plus tard, on a continué à s'échanger des messages et voilà, petit à petit on a commencé à se voir de plus en plus jusqu'au jour où on s'est rencontrés finalement ici dans cet hôtel là où on est aujourd'hui.
Ah,
et
oui.
C'est peut-être un petit peu là que voilà, on a vraiment commencé notre relation.
C'est ça.
Et finalement vous êtes rencontrés, donc ces premières rencontres c'était il y a combien de temps?
Alors la rencontre c'était en septembre 2014.
D'accord.
Et l'officialisation c'était il y a 4 ans pile, en octobre.
Ouais.
Un mois après.
Ça marche.
Donc il y a 4 ans.
Génial. Et donc depuis, vous vivez ensemble, puisque tu
oui, voilà.
Beaucoup.
on n'a pas vraiment de domicile fixe, on va dire, mais c'est certain qu'on vit ensemble, on voyage surtout ensemble.
D'accord.
Et donc on passe, ouais, effectivement, la plupart de notre temps ensemble, encore plus là depuis qu'elle a terminé ses études et qu'elle est diplômée.
Et alors justement, un des sujets qui m'intéressait beaucoup, c'est que donc vous travaillez aussi ensemble maintenant, puisque Julia, tu gères donc la communication, si je comprends bien, en fait, pour Pierre-Hugues, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, etc.
C'est ça.
Même et un peu plus que ça, plus que ça. La communication.
C'est ça. Non, mais en fait, naturellement, ouais, petit à petit, pendant ces quatre dernières années, j'ai un peu pris des choses en main. Il avait une page Facebook, mais il n'avait pas Instagram. Donc, j'ai voulu vraiment lui créer un compte Instagram. Je trouvais ça important.
Qui est très bien, d'ailleurs.
Merci. Merci beaucoup. C'est...
Non, donc, Julia, je trouvais des choses importantes. Souvent, je lui disais, voilà, je pense ci, je pense ça. Il en faisait ce qu'il voulait. Et puis, petit à petit, j'avais de plus en plus de responsabilités, on va dire, jusqu'au moment où, l'année dernière, donc en cinquième année, j'ai pu faire ma cinquième année en alternance avec Pierre-Hugues. C'était à prendre ou à laisser quoi, pour l'école. C'était soit j'arrêtais en quatrième année et je voyageais, soit je faisais ma cinquième année avec lui. D'accord. Je ne voulais pas aller en entreprise, sachant que j'avais quand même un rôle à jouer avec lui qui est important, parce que si ce n'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre au final, donc autant que ce soit moi qui le fasse. Et du coup, l'école m'a dit OK. Et donc, la cinquième année s'est bien passée. Là, j'ai terminé il y a 3 mois. Et depuis 3 mois, officiellement, on peut dire qu'on travaille ensemble. Ça y est. Et voilà, donc je fais la communication. Je suis en contact avec ses sponsors aussi. Je l'aide au quotidien à organiser toutes les tournées parce qu'on bouge tout le temps. Donc, que ce soit pour lui, pour moi, pour son équipe, son team. Réservation d'hôtel, tout ça. Toute la mise en place en fait de la routine du tennis autour de Pierre-Hugues.
Et ça a été pour vous une décision difficile de travailler ensemble comme ça, parce que c'est quand même typiquement, je dirais pas que c'est risqué, mais ça peut faire un peu peur quand même de se dire on va mêler la vie privée, la vie professionnelle. Alors j'imagine que dans ton cas, Pierre-Hugues, en tout cas tout est mêlé, parce que quand on est sportif de haut niveau comme toi, c'est sûr que ta vie professionnelle c'est ta vie privée aussi. Mais c'est pour les personnes qui nous écoutent, j'imagine qu'il y en a pas mal qui se posent parfois la question de se dire est-ce que je vais pouvoir travailler en couple. Et vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de comment vous êtes arrivé au moment où vous êtes dit on va le tenter, et peut-être aussi me donner quelques petits conseils.
En fait, à cause de ma vie, on va dire, on arrivait un petit peu dans une impasse, surtout au niveau professionnel de Julia, parce que si elle décidait de bosser dans une boîte ou autre, ça voulait dire qu'on se voyait très peu, parce que je suis quasiment 80% du temps à l'étranger. Et je pense que notre souhait à nous deux, c'était qu'elle voyage avec moi, ou qu'on voyage ensemble. Et donc à partir de là, moi je concevais pas de voyager avec Julia, mais qu'elle ait pas un rôle dans mon équipe et qu'elle et qu'elle m'aide pas au quotidien. Je pense que même pour elle, c'était quelque chose d'important. Et donc on a tout de suite tenté le coup. On y allait mollo. Au départ c'était un stage de 6 mois.
Vous
ensuite ça a été
de
l'alternance. Ensuite on est passé maintenant à la vitesse encore supérieure, parce que maintenant elle va être engagée maintenant pour travailler avec moi. Donc ça s'est fait petit à petit. Ça a pas été un long fleuve tranquille non plus,
il y a eu des bas.
Exigeant.
Je travaille avec mon mari, donc je vois.
J'ai tendance à être sportif de haut niveau. Je suis très exigeant avec moi-même, donc j'ai tendance à être aussi assez exigeant avec les gens que j'ai autour de moi. Donc c'est certain qu'il a fallu à certains moments arriver à prendre du recul, arriver à communiquer. Mais c'est la base, je pense, même en amour. Mais c'est certain que ça n'a pas été si facile que ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on on est arrivé un petit peu à un rythme de croisière, et ça se passe extrêmement bien. On arrive à bien faire la part des choses entre le professionnel et un petit peu le privé, on va dire. Pour l'instant, ça se passe. En tout cas, je suis très content de la manière dont ça se passe. Est-ce que Julia, toi, tu es contente ? Est-ce que je suis.
Non, moi aussi, je suis très satisfaite. Il n'y a pas eu des moments simples, de toute façon, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Il a juste fallu trouver l'équilibre, je pense. Mmh. Et ça, une fois qu'il était là, c'était top.
Ça marche. Et tu disais, Pierre-Hugues, tout à l'heure, vous avez quand même réussi à prendre du recul et à faire un peu la part des choses. Vous avez. Peut-être des exemples de petits trucs, de petites choses que vous faites. Vous parlez de boulot matin, midi et soir. Vous arrivez à couper. Vous êtes mis en place des jours où vous n'en parlez pas. Est-ce que vous avez mis en place des petits trucs ?
On n'a pas mis grand-chose
en place. On n'a rien mis en place.
On n'a rien mis en place du tout.
On ne se dit pas du tout.
Après.
Parfois, ça m'arrive de te dire quand même, là, par contre, ça fait 2 jours, on ne parle que de boulot. Donc. Non, mais c'est vrai.
Oui, non, mais c'est vrai.
Tu souris, mais c'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'on a pu parler d'autres choses. autre, parce que finalement, comme on voyage pour lui, donc tout tourne autour du tennis toute la journée. Donc quand on se lève le matin, ils vont peut-être parler du match. Le midi, ils vont peut-être parler de ce que un tel a fait comme résultat. Le soir, ils vont préparer le match du lendemain. Bah, moi, au bout d'un moment, je dis oui, ok, mais on peut parler d'autre chose. Voilà. C'est ça, en fait, qui se passe. Mais sinon. Non, on n'a rien mis en place. C'est juste quand chacun arrive un peu au.
Non, après on a forcément nos petites routines où on se retrouve, c'est certain. Et de toute façon, on ne parle pas non plus boulot toute la journée, je pense pas. Même si c'est une vie prenante c'est certain que.
Il me contredit, ça y est.
Non, mais on a rien mis en place vraiment. D'accord. Je pense pas, mais pour l'instant, on a réussi à trouver un équilibre comme ça.
Bon, top.
Peut-être qu'il plus tard, il va peut-être falloir mettre quelque chose en place.
Il va falloir mettre en place des process.
On écoutera un podcast pour avoir les conseils de quelqu'un.
Shalalove, j'espère. Voilà. Ça marche. Et Julia, j'avais une question pour toi. J'imagine que c'est pas simple quand même, même si je suis sûre plein de moments super sympas d'être avec une personnalité publique comme Pierre-Hugues. Mais j'imagine qu'il y a aussi des moments plus difficiles. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, qui t'ont étonnée dans le fait, enfin peut-être justement le fait de voyager beaucoup, je sais pas, mais des choses qui sont pas simples pour toi finalement aussi dans. À cause de...
Alors, il n'y a rien qui a été, entre guillemets, horrible, on va dire. Petit à petit, je m'y habituais. Les voyages, les décalages horaires, la valise, le fait d'être loin de ma famille, de mes amis, de ma ville, etc. Sinon, un des trucs là, comme ça, qui me vient, c'est ce qui m'a étonnée. C'est quand je suis allée au Japon pour la première fois, il y a un an et demi. Les Japonais sont très fans. Enfin, Pierre-Hugues, il y a une grosse communauté, je pense, de Japonais, de fans japonais.
Il l'adore aussi, peut-être.
Ouais, oui, ça va avec, forcément. Et en fin de compte, à la sortie de la tribune dans laquelle j'étais, ils m'attendaient pour me demander des photos, donc des selfies avec moi,
d'accord,
et avec des cadeaux, comme si j'étais une vedette, quoi.
D'accord.
Donc, sur le moment, tu leur dis. Je suis personne. Pierre-Hugues, il est en bas, je peux lui donner. Non, c'est pour toi. Donc ça m'a vraiment, vraiment surprise. Après, Pierre-Hugues, dans le quotidien, oui, il est connu dans le milieu du tennis, mais dans le tous les jours, c'est quand même très... C'est pas dérangeant, quoi, en tout cas. C'est pas...
Ouais, je pense qu'on m'arrête quand même pas très souvent, et on va dire que je subis pas non plus ma notoriété comme pourrait subir une personne vraiment extrêmement connue. Aujourd'hui, j'arrive à passer inaperçu, et on a aucun... aucun problème d'aller dans la rue ou d'aller
non,
se faire.
Voilà,
on est assez libre de faire tout ce qu'on veut.
Je pensais plus peut-être au fait de voyager énormément ou au fait que j'imagine que tu as un entraînement énorme, des régimes alimentaires peut-être particuliers à suivre dans les périodes de tournoi. Ouais. Donc des contraintes, on va dire, que toi aussi, tu as choisi, entre guillemets,
mais que
Julia n'a pas choisi.
Non, complètement.
Donc, j'imagine
complètement.
Que c'est sûr. Simple.
Elle a été, en me rencontrant, elle a été au milieu de.
Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Ça, on se le dit tout le temps, il me l'a encore dit la semaine dernière, mais quand je pense qu'avant de me rencontrer, le dimanche, tu ne faisais rien. Je dis, oui, en fait, je faisais rien, il n'y avait rien à faire le dimanche. Et maintenant, il y a toujours un truc, un match.
C'était limite sacré à l'époque. Le dimanche, c'était la grasse mat, c'était.
Le week-end dur de changer, du coup.
C'est vrai qu'il n'y a plus trop de week-end, les jours fériés, ils sont un peu au moment où le corps, il n'en peut plus, donc ça arrive quand ça arrive. Et donc c'est des années assez pleines
autant on n'a pas d'horaire de bureau, on fait pas 8h, 18h, etc., mais on travaille tous les jours. Il n'y a pas vraiment de coupure. Les vraies coupures, c'est quand il décide d'arrêter et qu'il a des vacances, et ça c'est 3 semaines par an, 2-3 semaines par an.
C'est marrant. Et il y a autre chose qui m'a un peu interpellée quand j'ai commencé à réfléchir aux questions que j'allais vous poser. Et je me suis dit, en fait, la vie d'un grand sportif, c'est quand même une vie où tu as des moments de joie extrême quand tu as des victoires. Mais tu as aussi des moments, j'imagine, terribles où tu as subi des échecs quand tu t'y attendais pas. Je peux difficilement même imaginer ce que c'est, mais je pense que ça doit être très, très dur. Justement pour toi, je peux imaginer que c'est dur. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ces moments-là où vous êtes à deux? J'imagine que toi, Julia, tu es très déçue. Mais est-ce que tu as un rôle justement d'essayer de le consoler? Est-ce qu'au contraire il faut pas le faire? Est-ce que vous engueulez? Enfin, j'imagine que c'est pas simple.
Non, c'est pas simple.
Et donc je voulais savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer ça et comment vous faites, quoi.
Je sais déjà, pourquoi tu rigoles, non?
Non, mais parce que ça fait 4 ans qu'on est ensemble et on va dire que elle a été catapulté dans cette vie un petit peu, Julia. Elle s'y attendait pas, elle comprenait pas forcément pourquoi est-ce que à certains moments,
on l'a pas dit,
mais
je connaissais pas du tout le tennis. Voilà. Hein. Oui. Je savais pas compter les points. J'ai tout appris devant un match, quoi. J'ai tout appris.
Ouais. Donc, par moment, je pense que je devais être dans des états après des défaites et elle devait pas forcément comprendre que 4 heures après le match, je suis encore dans un état vraiment de déception et de colère. Et finalement, il y a même des fois où ma colère, je la transmettais à Julia. Enfin bref. Mais je pense que...
mais pas plus tard que dimanche. Maintenant,
elle a un peu tout compris, on va dire. Ça fait tout compris, un peu tout vu. Mais c'est certain, l'exemple de ce dimanche, c'est certain que j'étais en finale à Shenzhen. Ça a été une semaine extraordinaire. Je rêvais de gagner mon premier titre. J'ai perdu en finale 6-4 au troisième après un match assez serré. C'est sûr que ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. Je suis passé tout proche d'être le plus heureux des hommes. Et au final, j'ai perdu. Et voilà, je termine en larmes dans les vestiaires. Julia, qui était en larmes aussi, elle de me voir.
Je ne l'ai pas vraiment aidé.
Enfin bref, c'est certain que. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime le sport. Parce que ça nous fait passer par pas mal d'émotions. Et à côté de ça, en juin dernier, quand on a gagné Roland Garros, on était en larmes, mais pas les mêmes larmes, larmes plutôt sûr. De joie. C'est certain qu'il faut arriver à le gérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le gère de mieux en mieux. Que ce soit moi, forcément, quand on a plus perdu, on le gère un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'on a vécu des belles choses et aussi des choses par moments très très dures.
Et l'un et l'autre, du coup, j'imagine qu'il se passe plein de choses dans votre tête à ce moment-là, parce que quand on subit un échec, on pense quand même un peu à soi, on est désespéré et tout. J'imagine que tu n'as pas forcément en tête à ce moment-là de prendre soin de Julia, mais d'un autre côté, elle est à côté, tu sais qu'elle fait des efforts pour t'aider, donc je peux penser aussi que tu dois te sentir un peu coupable de ne pas être bien. Et à l'inverse, Julia, toi, j'imagine que tu ne sais pas gérer et tu te dis... tu sais pas gérer, j'en sais rien, mais j'imagine que
arrivé.
C'est pas facile non plus de consoler quelqu'un quand il n'y a pas tellement en plus de raisons.
Puis qu'il a même pas envie d'être consolé parfois.
Voilà. Donc je peux imaginer que c'est pas simple au quotidien et que vous devez passer par des moments un peu d'ascenseur émotionnel qui sont intéressants. Ça marche. Au niveau aussi des sacrifices, je voulais en parler, donc vous allez me dire oh là, mais on parle que de trucs horribles. Non, ne vous inquiétez pas, on parle aussi de trucs très joyeux, mais je peux quand même penser, on en parlait tout à l'heure, que la vie d'un grand sportif, c'est une vie qui est quand même faite de plein de joie, mais aussi de plein de sacrifices, d'efforts, d'énormément d'efforts. Et là aussi, toi, une fois de plus, comme je le disais, tu as fait ce choix, quoi, finalement, Pierre-Hugues, avec ta carrière de grand sportif international. Mais
Julia, elle l'a pas forcément fait. Effectivement, elle a été catapultée un petit peu là-dedans. Et
ma question, c'était plus, est-ce que finalement, tu as fait des sacrifices pour ta vie pro, mais est-ce que tu en as fait aussi pour ta vie personnelle et pour ton couple?
C'est une bonne question.
je me suis creusé la tête.
Donc pour ma vie professionnelle, oui, j'en ai fait énormément.
Ça, je peux imaginer.
Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Julia, je lui disais que j'ai tellement sacrifié de choses que j'allais pas non plus commencer à ne plus en sacrifier parce que
ça commençait à payer quoi.
Je lui ai toujours dit que j'allais très souvent faire passer ma vie professionnelle avant notre couple.
Ça c'est une discussion que vous avez eue assez
forcément
tôt.
Tout de suite, que je lui ai dit que c'était difficile, que ma vie elle n'était pas forcément faite pour une vie de couple, vraiment pas, parce que on voyage tout le temps, que moi je peux pas faire les sacrifices pour qu'on passe du temps ensemble, pour qu'on soit ensemble, et donc il a fallu finalement que ce soit Julia qui les fasse. Et aujourd'hui c'est vrai que Julia je pense qu'elle le fait aussi parce qu'elle m'aime beaucoup, mais c'est vrai
parce que j'ai envie aussi,
parce qu'elle a envie, mais elle fait énormément de sacrifices. Ma vie demande énormément de sacrifices. C'est une vie où on est constamment dans les bagages, constamment en train de bouger, on se pose jamais. C'est une vie extrêmement fatigante, loin de nos proches, loin des gens qu'on aime. Et c'est certain que là-dessus, Julia, ça fait 4 ans qu'elle a sacrifié énormément.
J'ai pas sacrifié mes études.
Je l'ai interdit de sacrifier.
Non, mais je l'aurais pas fait, même si tu m'avais dit allez, viens. C'est bien le circuit.
Mais du coup, est-ce qu'il y a eu, toi, de ton côté, je ne lâcherai pas ma question.
De mon côté, des sacrifices.
Ou pas, peut-être que Julia en a fait, mais tu n'as pas fait.
Un sacrifice,
à la suite de ce podcast, tu vas te dire.
Non, t'as rien sacrifié. pour.
Non, je pense que je.
Mais après, voilà, il s'investit.
Je m'investis aujourd'hui.
C'est pas une raclure, hein.
Je me suis. Voilà, j'investis quand même dans notre couple aujourd'hui. Voilà, je prends en charge beaucoup de, on va dire, de dépenses. C'est peut-être ouais, ça, mes seuls sacrifices. Oui. C'est peut-être un petit peu nul, mais après, je sais pas.
Je
la soutiens. Je la soutiens quand même
dans ses projets.
Voilà, je sais pas quel sacrifice vraiment je fais, parce que la plupart des sacrifices, je les fais pour ma carrière.
Il n'y a rien qui passe avant ça, de toute façon.
En tout cas, j'essaie d'être une aide.
Comme je l'ai bien imprimé, ça ne me pose pas de soucis non plus. Mais par exemple, voilà, les 50 ans de mon père, il n'y est pas. Enfin, un truc un peu...
Ouais.
Après, 50 ans de son père, il n'y est pas non plus. Voilà, c'est ça que tu voulais dire aussi, peut-être.
Ouais.
Mais,
voilà.
C'est ça. Non, mais voilà, il n'y a rien qui passe avant. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu l'as imprimé, Soit tu passes ta vie à te lamenter, à dire ouais. Il est pas là, il est nul, nanan. Soit tu dis bon,
c'est comme ça.
Je prends ce qu'il me donne et puis on continue quoi.
Si jamais j'ai un sacrifice qui me vient à l'esprit, je le dirai.
On le mettra après.
Voilà.
Ça marche. Y a un truc qui m'intéresse énormément, c'est un peu les grands changements, les grands sauts, on va dire, dans la vie d'un couple, mais finalement les moments où on prend un risque, je trouve ça assez sympa. Et du coup, il y a un moment qui est assez important dans la vie d'un couple, c'est le premier je t'aime.
Ouais.
Oui,
exactement. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment? Et est-ce que vous pouvez me le raconter, si c'est pas trop indiscret? Déjà, à qui est-ce que c'est arrivé en premier? Parce que
je
c'est
me
un
rappelle
peu la grande
du
question.
Vent monumental que j'ai pris, oui.
Non, mais...
Alors, vas-y, raconte-nous ça.
Non, alors
c'est arrivé en premier à Pierre-Hugues, déjà.
Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Julia est une aventurière, quand même, parce que quand on s'est revus donc, sur Paris, après s'être vus deux fois, une fois à Metz et une fois à Strasbourg, je lui ai proposé, alors que ça faisait très peu de temps qu'on se connaissait, de venir avec moi en vacances à l'île Maurice,
ici,
et ensuite sur un tournoi à La Réunion. Donc c'était ici, et c'est un peu ici le début de notre relation, vraiment, quoi, là où les choses de mon côté ont changé, où je me suis dit... Ah, ça va être possible d'avoir une relation avec avec Julia sur le long terme et pourquoi pas d'être en couple. Et c'est à ce moment-là, je sais plus, en pleine nuit, je lui propose, je lui dis ça te dirait d'aller à l'île Maurice dans deux semaines. Et parce que bien sûr, ma vie, on programme rien, ouais. On sait tout deux semaines après, et donc. Et en fait, elle était partante, elle était contente.
Et tu m'as surtout dit, c'est soit j'y vais avec toi, soit j'y vais
oui,
pas.
Oui, bah forcément, ça c'était.
Il serait pas seul, donc du coup, moi je me suis dit, oh mais arrête, exagère pas. Enfin, dans ma tête, je me dis, on se connaît pas, mais j'avais quand même envie d'y aller. Forcément, on est au mois de novembre, il te dit dans deux semaines, en décembre, on va à l'île Maurice, t'as envie d'y aller, c'est sûr. Et je me suis arrangée avec l'école entre guillemets, parce que comme j'étais à la fac encore, j'étais en deuxième année, j'ai pu un peu skipper les cours. Et du coup, je lui ai dit ok, c'est bon, on le fait, on y va.
Et voilà, c'est à partir de là qu'on a, en tout cas que moi, je me suis vraiment investi. Mmh. On a vraiment commencé à se connaître et en fait, ça s'est terminé finalement après la semaine à l'île Maurice qui s'est passée où j'avais des cœurs pleins les yeux.
Attends, je te coupe parce que toi, le premier je t'aime, tu l'as pas dit avant.
Je l'ai dit. Non, mon premier je t'aime, je pense que j'ai dit à La Réunion. Dans la chambre.
Tu
à la
l'avais
Réunion,
avant ouais. Tu le pensais avant?
Oui, je pense que je le pensais avant. Ouais. J'ai essayé de tâter le terrain, de voir si c'était le moment de le dire ou pas. Mais
Moi, le premier je t'aime, je m'en souviens pas en fait. Vraiment, le premier que tu as dit. Ouais, je m'en souviens pas. Par contre, je me rappelle à quel moment je l'ai senti. Et c'était à la fin de ces deux semaines.
De ces deux semaines, Annie Maurice.
Et donc ça s'est terminé.
Quand on s'est séparés. Enfin, quand on s'est quitté.
Je lui ai dit je t'aime sur la semaine. À La Réunion, donc au bout d'une semaine et demie à peu près ensemble, et ça s'est terminé en pleurs complets
ouais,
à l'aéroport.
En fait, moi, mes copines m'écrivaient tous les jours en mode ça y est, tu l'aimes, qu'est-ce que tu ressens? Elles étaient au taquet.
Julia, hyper froide, aucune larme.
Et moi, je disais, mais allez, fille, arrêtez, laissez-moi passer mes deux semaines avec lui, on verra à la fin. Et en fin de compte, à la fin, quand j'ai réalisé qu'on se voyait plus jusqu'à, parce que là, on était mi-décembre ou début décembre, et lui partait en Australie. À Noël, ça faisait deux mois qu'on était ensemble, donc on passait pas Noël ensemble. Après, il partait un mois, on se revoyait en février, donc il se passait quasiment deux mois sans se voir, je crois, sept semaines.
Au bout de deux mois de relation, c'est vrai que ça fait beaucoup.
Et donc là, en fait, j'ai été en larmes. Désespérée. Et là, je me suis dit, ça y est, là, je sais que je suis amoureuse de lui.
Et donc, vous avez un peu consciemment pris la décision de rester ensemble et que ça soit un peu sérieux, entre guillemets, malgré le fait que tu aies une vie pas simple, Pierre-Hugues. Est-ce qu'il y a eu un moment où, cette fameuse conversation où tu lui as dit ma carrière elle passe avant, mais tu comptes quand même pour moi, j'imagine que tu as dit ça. Ça s'est arrivé combien de temps après, à peu près?
Non, mais je pense que déjà, l'île Maurice et la Réunion, je pense qu'elle avait compris que même si j'avais une carrière, elle comptait quand même beaucoup. D'accord. À mes yeux. Donc là-dessus, il n'y a jamais eu trop de doutes. Et après, moi, ce qui est sûr, c'est ce qui m'a beaucoup rassuré dans toute cette histoire, c'est que je lui ai proposé d'aller à l'île Maurice dans 3 semaines. Et
elle avait pas
peur de l'aventure, quoi. Ouais. J'ai envie de dire.
Je me suis même pas dit qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, je m'en foutais. Je savais que j'y allais.
Et donc, à partir de là, ça a plutôt facilité les choses, parce que même si on ne se voyait pas souvent, elle était prête à voyager, à découvrir des choses. C'est quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc, forcément, ça a été plus simple. Et ça nous a aidé sur le long terme.
Top. Alors justement, c'est une très belle transition, parce que ma prochaine question, c'était: qu'est-ce que, Pierre-Hugues, tu admires le plus chez Julia?
Tu admires?
Admire le plus, oui, chez Julia.
Alors déjà, premièrement, je trouve qu'elle est extrêmement belle.
Très bien. Ça, c'est vrai, je confirme.
C'est la première des, première des choses. Ensuite, j'adore son humour. Et elle est très, très intelligente comment dire, avec les personnes, elle sent très bien les choses. D'accord. Elle est très communicative, elle arrive très facilement à donner le sourire, donc c'est quelque chose que j'admire. Et c'est sûr que j'ai du mal à me faire chier quand je suis avec elle. C'est sûr que il y a beaucoup de... On s'amuse pas mal.
Pas mal. Et si je te retourne la question, Julia, qu'est-ce que tu admires le plus chez
Sa force de tous les jours pour réussir à bien jouer au tennis, à réaliser ses rêves.
Sa force de caractère.
Ouais. D'avoir tout mis de côté à 15 ans en y croyant, alors que 15 ans, tu peux aussi ne pas y arriver, quoi. Non, ça, franchement, ça, c'est ce que j'admire le plus. Parce que moi, je ne suis pas du tout une grosse bosseuse. J'aime pas la compète. Enfin, on est complètement différents sur ce sujet-là. Donc, forcément, ça, j'admire.
Super. Une autre question, et ensuite, je vous laisserai tranquille. C'est le truc le plus fou que vous ayez fait à deux, le truc le plus audacieux, le plus dingue,
Je pense que déjà les vacances au bout de, enfin les vacances,
ouais, les
ces
vacances
deux semaines,
là, ces deux semaines là, c'était
si
pas mal.
C'était pas complètement fou, c'était quand même l'île Maurice et la Réunion.
Puis on se connaissait pas vraiment.
Mais c'est vraiment le fait qu'on se connaisse pas vraiment et qu'on parte comme ça, ça aurait pu complètement capoter. On a quand même passé à l'île Maurice les 24 heures, et c'est pas comme si il y avait d'autres activités, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on était ensemble pendant 24 heures et alors qu'on se connaissait pas, quoi. Donc ça, je pense, c'était fou. Et après, je pense que on a quand même une vie assez folle, quoi. On est quand même complètement taré avec nos valises à partir partout dans le monde, à jouer des tournois de tennis en soi. Déjà, je pense que notre vie en soi est déjà folle. Ouais.
Tous les deux, je sais pas si on a fait un truc foufou, parce que c'est quand même sérieux. Hein, on voyage, mais c'est pour son boulot, donc voilà. Mais moi, le truc que j'ai fait et qui me vient en tête, c'est pour aller au Japon, justement, en fait, il y a un an et demi, j'avais une semaine de révision avant mes examens. Et en fin de compte, j'étais à l'école le mardi, donc on était en révision le vendredi soir. Et mes copines me disent: tu fais quoi la semaine prochaine? T'es avec Pierre-Hugues? Je dis: ah non, pas du tout, il est au Japon. Mais ah bon, mais tu vas pas au Japon? Je dis: ah ben non, mais on a la semaine d'examen, enfin, on révise, quoi. Mais on s'en fout, elles me disent... Pourquoi tu vas pas au Japon, t'es débile? Limite, elles me mettent une pression comme ça. Et là, j'ai commencé à cogiter. En 10 secondes, j'ai commencé à envisager de partir sans lui en parler. J'ai regardé les billets d'avion. Et il m'a dit: écoute, t'as tes révisions, t'as tes examens, c'est comme tu le sens. Tu viens ou tu viens pas. Et je suis venue en 2 jours, pour 5 jours au Japon. Et donc, c'était un week-end de Coupe Davis. Donc, il y avait des matchs pendant 3 jours toute la journée. Et du coup, j'ai pas beaucoup travaillé. Et c'est mes pires. J'ai eu mes pires notes durant ma scolarité. Du coup, non, aucun regret. Aucun regret. C'était génial. Le Japon, on devrait y être en ce moment d'ailleurs, mais on n'a pas pu retourner. Et ça, c'est vraiment le truc le plus fou que j'ai fait. 12 heures de vol pour 5 jours, même pas 4 jours et demi sur place.
Pas mal. Et du coup, ma dernière question, c'est: si vous revenez 4 ans en arrière et que vous pouviez donner un conseil aux jeunes. Julia et au jeune Pierre-Hugues sur un peu le secret du bonheur d'un couple, qu'est-ce que ça serait?
Ouais, déjà, si je sais pas, j'aurais dit à Pierre-Hugues: déjà, accroche-toi. accroche-toi, sois patient, et avant tout, pour moi, le secret d'un couple, c'est la communication. Et je pense que ça s'apprend en fait, ça se travaille au fur et à mesure d'un couple. Je pense que plus les années passent, mieux on communique. Et je pense que c'est ça le secret aujourd'hui de la durée en tout cas d'un couple. Parce qu'à partir du moment où il y a des non-dits, à partir du moment où on ne se comprend plus, je pense que c'est là où ça commence à capoter et c'est là où il y a une séparation et la distance qui se crée entre deux personnes qui s'aiment.
Très clair. Et toi, Julia, un petit conseil pour la fin ?
Donc, moi, je dirais de foncer, mais j'étais déjà une fonceuse il y a 4 ans, mais de jamais baisser les bras, en fait. Si t'as envie, t'y vas et si ça marche pas, ça marche pas. Voilà, ça c'est toujours ce que je dis à mes copines. Au pire, on s'en fout quoi. Franchement, t'auras essayé.
Faut tenter sa chance.
C'est ça.
Génial. Bah, je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Et puis, bonne chance pour les prochains voyages.
C'est gentil. À bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Cet épisode de Chalalove accueillait Pierre-Hugues et Julia. Vous retrouverez Pierre-Hugues dans la presse, bien sûr, lors des grands tournois de tennis, mais aussi sur son compte Instagram, tout simplement Pierre-Hugues Herbert, tout attaché. En ce qui concerne Julia, elle est aussi sur Instagram, sous le nom Julia Lang. N'hésitez donc pas à les suivre et à leur dire si leur histoire vous a touché. Vous pourrez retrouver cet épisode et le lien vers les contacts de Pierre-Hugues et Julia sur le site de Gémio directement, donc www.gémio.com, rubrique podcast. Et si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités, nous proposer à votre tour votre histoire d'amour, suivez-nous sur Instagram au pseudonyme Gémio, donc G-E-2-M-R-E-C-O, et racontez-nous votre histoire avec vos mots, avec le hashtag Chalalove. Enfin, si vous voulez nous donner un peu d'amour à votre tour et que le podcast vous a plu, vous fait passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes, ça nous aide énormément. Mille merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, plein d'amour bien sûr.